De retour à Delirium Environnemental. Je vous rappelle que Delirium Environnemental, c'est aussi un site Internet à partir duquel vous pouvez aller chercher une foule de renseignements environnementaux, entre autres les articles desquels on tire la revue de presse. Et ça, tout ça, ça se trouve au www.radiodelirium.net. Comme je vous le disais, on poursuit la revue de presse, revue de l'actualité cette semaine. Et cette semaine, il faut le redire, c'est le jour de la Terre 2005, dont le thème est « Réinventer la roue ». Nous, on poursuit sur cette question-là, mais je vous rappelle que sur notre site, vous aurez toutes les informations pour vous rendre sur celui de lejourdelaterre.net. Parce qu'il y a plein de petites choses qui valent la peine d'être lues à ce sujet-là, dont toutes les réflexions sur l'impact du transport sur l'environnement. Le jour de la Terre, c'est comme la fête des mères. Ça ne veut pas dire que quand c'est fini, il faut arrêter d'y penser et de s'en occuper. C'était ma réflexion.
Wow. Et faites de même avec la fête des pères.
Hein? Sur la patcha maman. Uh-huh. Et la patcha papa aussi, pourquoi pas?
La patcha papa.
Nous, on va continuer sur la question des transports. Donc, plusieurs projets de développement routier, d'axes, de grands axes routiers sur la région périphérique de Montréal et à Montréal même. Nicolas Milo, le cas de la 25, toi, te préoccupe particulièrement.
Oui, parce que cette semaine, ça a bien beau être le jour de la Terre, mais c'est la semaine du char au Québec. Hein? On y va assez fort. Pour vous mettre dans le contexte, au début de la semaine, c'est-à-dire la semaine dernière, Michel Després, ministre des Transports, a annoncé que le gouvernement Charest investira 3,9 milliards de dollars dans le réseau routier au cours des trois prochaines années. Donc, c'est environ 1,2 milliard, 1,3, 1,4 milliards pour les trois prochaines années. Ce qui nous amène, et en plus, lors de cette annonce-là, il ne disait absolument pas comment il allait répartir cet argent-là. Mais ça n'a pas pris de temps, car il a dit « Mais non, je vais aller vous rencontrer chez vous à chaque jour pour vous dire qu'est-ce qui va se passer. » Et cette semaine, ça a commencé dans la région de Montréal. Et attention, les choses arrivent en rafale. Premièrement, une annonce donc ce mardi, c'est-à-dire deux annonces combinées, peut-être une qui est là pour faire passer l'autre moins durement dans la gorge des environnementalistes. On nous propose la même journée le prolongement du train de banlieue de Montréal-Blainville jusqu'à Saint-Jérôme. Eh bien, ça, on passera... Oui, tant mieux. Mais je vais tellement passer vite dessus, c'est une belle nouvelle, mais c'est qu'en même temps, on nous dit que la 25, eh bien, c'est commencé, on envoie ça au BAP, on essaie de passer ça le plus rapidement possible, parce qu'il faut que les pépines creusent, il faut qu'on fasse de quoi.
Mais là, j'entends des gens qui disent, ouais, mais si ça va passer au BAP, là, Nicolas, c'est correct, arrête de chialer.
Bien, il y a plusieurs personnes, on se rappellera, le BAP, Bureau d'audience publique en environnement, mais il y a plusieurs personnes qui ont justement décrié cet hiver que le cas de la 25, mais c'est pas un cas de petites grenouilles dans la rivière des Prairies qui vont être tués à cause des travaux.
Tu es en train de dénigrer les petites grenouilles.
Ils sont capables de se sauver.
Mais alors que souvent, les audiences du BAP ont lieu autour de projets ponctuels, donc sur les impacts du projet en tant que tel sur l'environnement qui est touché par le projet, mais là, on rentre dans une autre partie. On rentre dans le transport de la région de Montréal. Donc là, on nous promet, entre autres dans le discours gouvernemental, que bien, l'ouverture du tronçon manquant de la 25, c'est une voie de contournement par le nord, donc de l'île de Montréal, pour favoriser, dans le fond, le transport des marchandises.
Ça va être mieux pour la qualité de l'air en
milieu. Et voilà, les autos vont être beaucoup moins ralentis dans le trafic. Les camions ne sont pas obligés d'arrêter sur le métropolitain à faire du pare-choc à pare-choc et à polluer notre belle ville. Et donc, c'est une mesure concrète dans les atteintes des objectifs de Kyoto, réduire les émissions du transport. On nous sert beaucoup ces arguments-là. Eh bien, c'est que, parallèlement à un cas comme la 25, donc on se rappelle qu'il va rejoindre le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, donc aller plus loin que simplement aller jusqu'à la 40, mais se rendre jusqu'à l'île de Laval et finalement aller rejoindre la 25 qui est à Laval, eh bien, on nous propose aussi des projets de la 30 sur la rive sud, donc une voie de contournement par le sud. Donc, on est en train, dans le fond, de proposer tous les tronçons manquants qui manquaient au fameux plan de transport global de la région de Montréal qui date des années 60.
Bien, moi, la majorité des gens qui circulent en voiture doivent dire « enfin ».
Totalement. Et je pense que les gens qui circulent en voiture, ils ont peut-être tout à fait raison de dire ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bouchons, il y a des problèmes d'embouteillage. Le problème...
À court terme, ils ont peut-être raison.
Et voilà, c'est ça le problème. À court terme, on sait que des études nous ont été révélées depuis des années que chaque ajout de nouveaux tronçons d'autoroute, eh bien oui, pendant une période de 1-2 ans, réduit l'achalandage, mais en même temps, crée un attrait vers l'utilisation de l'automobile et finalement, revient à la situation qui était là au préalable.
Mais moi, je vous pose une question. Ça veut dire que vous pensez pas que c'est une bonne chose, la voie de contournement, parce que, par exemple, la métropolitaine, puis tout ça, il y a plein de camions qui sont pas obligés de passer par Montréal, qui pourraient juste faire le tour.
Que c'est intéressant d'amener le sujet. En fait... Le transport, c'est une grosse question, c'est complexe. Tu as tout à fait raison d'amener qu'il pourrait y avoir du bien, totalement. Mais lorsqu'on parle d'un pont, entre autres, on parlait d'un partenariat public-privé sur un pont. Donc, on parlait aucunement de pistes cyclables, on parlait aucunement de développement de transport en commun pour la banlieue nord-est, parce que c'est là que cette autoroute-là va. Donc, c'est simplement d'augmenter l'accès par l'automobile à la ville de Montréal et aucunement dans une vision complète et globale. À la limite, ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir une voie simple pour une auto avec je ne sais c'est quoi des trains qui passent ou quelque chose. Mais là, c'est simplement un développement automobile et aucunement organisé par rapport à une vision du transport en commun qu'on n'a pas au Québec et qu'on doit avoir parce que déjà trop d'automobiles à Montréal, c'est déjà engorgé bord en bord et ça n'a aucun sens de rajouter ça.
Pour une voie de cette dimension-là, je la comprends. Ce que je comprends pas, c'est on peut pas mettre on va pas mettre une piste cyclable sur la 40 qui va contourner Montréal pour aller jusqu'à Toronto, par exemple. Moi, je parle vraiment des gros camions là qui n'ont pas besoin de passer par Montréal. Oui, mais je veux dire, on veut-tu que le transport qui arrive de Québec pour s'en aller à Toronto passe par Montréal puis reste pogné à l'heure du trafic en contamination?
Il peut passer par la rive sud, c'est d'où l'intérêt de la 30.
Et voilà,
okay, donc, c'est ça. Mais c'est ça que j'essaie de comprendre. Donc,
niveau,
la 30, c'est celle-là qui serait la voie de contournement. La 25, c'est le nord, complètement autre chose. Puis là, c'est vrai qu'il y a comme une population débile mentale dans le coin de Laval.
Dans le fond, ceux qui ont un peu voyagé et vécu les grandes métropoles, souvent on a ça, c'est-à-dire une autoroute périphérique.
Un beigne
autour d'une ville. Paris est un exemple, le fameux périphérique à Paris. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a du transport qui doit se faire rapidement, aucun véhicule qui ne doit pas arrêter dans la ville est obligé de passer par cette ville-là. À Montréal, le problème présentement, c'est que si on veut passer, par exemple, de l'Ontario à Québec, on est obligé de passer par la 40. Ou du moins par la 40, la 15, faire une espèce de viraillage. Donc ça, c'est problématique. Mais en même temps, présentement, on nous propose deux projets simultanément pour, dans le fond, c'est cette fameuse voie de contournement-là. Il y a tout lieu à se dire, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin des deux? Mais aussi, c'est qu'en Amérique, présentement, il y a plein de réflexions qui sont axées sur un changement de la mentalité au niveau du transport, l'intermodal, favoriser l'utilisation du train, des bateaux, bref, il n'y a pas juste le camion. Mais ça, le problème, c'est le fameux just-in-time. Les Walmart de ce monde, eux, veulent avoir des entrepôts roulants sur camion qui favorisent un prix minimal. Donc, c'est plus grand que juste le transport, mais bref, c'est une autre histoire.
Bien, justement, on va voir le point de vue, entre autres, des environnementalistes qui défendent complètement un autre point de vue que ce qu'on vient d'entendre sur les belles autoroutes de contournement. On s'arrête 30 secondes, le temps de se faire une tête, parce que là, il y avait la 25, la 30, puis toutes les autres. Puis au retour, on poursuit sur, justement, ces autres façons de voir le développement des axes routiers autour de Montréal. De retour à Delirium environnemental, on poursuit sur la question du transport parce que, comme le disait tout à l'heure Nicolas Milo, ça a vraiment définitivement beaucoup occupé l'actualité cette semaine et ça ne fait que commencer parce qu'il y a des grosses décisions et des gros projets qui sont en train de se mettre en branle. Patrick Bonin, à ce sujet-là, donc, les différents projets desquels Nicolas tout à l'heure nous parlait, les environnementalistes, entre autres, ont commencé à réagir.
Ben, en fait, complètement, ils réagissent sur deux gros dossiers. Donc, justement, la 25 et la route, la fameuse Notre-Dame. Parce que Notre-Dame, c'est pas clair encore. Est-ce que c'est un boulevard urbain, une semi-autoroute?
C'est un hybride.
C'est un hybride. Du moins, c'est justement, il y a comme une zone nébuleuse. Et demain, il va y avoir Robert Perrault du Conseil régional de l'environnement de Montréal, ainsi que des gens d'Équiterre et de Greenpeace qui vont être à l'hôtel de ville, mercredi. Donc, ils vont être à l'hôtel de ville pour demander au maire, justement, de statuer sur la position par rapport à la rue Notre-Dame, parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Et tout ça s'insère dans la rue Notre-Dame rejoint l'autoroute 25. Et le problème, on revient encore une fois avec l'autoroute 25, parce que c'est important d'en parler, c'est ça a été considéré un petit peu comme le prochain surroi au Québec, et c'est définitivement le prochain surroi dans l'optique où, justement, on n'a pas de plan de Kyoto, pas de plan de québécois de lutte contre les changements climatiques. Notre plan date de 2000, portait sur la période 2000-2002. On n'attend pas un avant 2006, imaginez-vous. Là, Kyoto a été mis en vigueur, on n'a pas encore de plan. Et le problème avec justement l'autoroute 25, c'est que c'est pas juste le MTQ, le ministère des Transports du Québec, qui en fait la promotion, c'est même le ministre de l'Environnement, M. Thomas
Mulcair,
qui est arrivé en disant que justement la 25 serait probablement susceptible de diminuer la pollution.
M. Mulcair, franchement, là, vous ne trouvez pas que vous avez tout dossier à vous occuper et que vous êtes supposé être dans l'autre camp, surtout?
Complètement. Et là, justement, encore une fois, Équiterre, Greenpeace et le Conseil régional de l'Environnement sont sortis en disant, écoutez, passer. M. Mulcaire va probablement être le premier ministre du Québec à passer à l'histoire en voulant combattre les gaz à effet de serre par la construction d'un pont autoroutier. C'est vraiment problématique. Eux de dire, écoutez, tant qu'à ça, on va suivre votre raisonnement, M. Mulcaire, mettez 10 ponts sur l'île de Montréal, ça va être beaucoup...
Ça
va être magnifique, ça va être incroyable. Mais là où le bas blesse, je devrais dire, c'est que normalement, M. Mulcaire, c'est lui qui doit recevoir le rapport du Bureau d'audience publique en environnement et présenter ce rapport à son conseil des ministres. Donc, normalement, il a un droit, un devoir de réserve même, un devoir de ne pas prendre position avant même le rapport du BAP. Donc, lui de dire, et là, malheureusement, j'ai pas avec moi, parce qu'on est la journée même, j'ai pas avec moi les termes exacts qui ont été utilisés, mais s'il s'est avancé en disant que, justement, c'était pour diminuer la pollution ou que c'était une bonne chose, eh bien là, son devoir de réserve a été outrepassé et c'est là que c'est le problème.
Et le problème aussi, c'est que ça fait deux fois en moins de deux semaines que ça arrive à notre cher ministre de l'Environnement, Développement durable, Parcs et compagnie. Il y a deux semaines, au niveau de la route 175 entre Québec et Saguenay, M. Mulcaire, encore une fois, a promis aux gens du Saguenay qu'il y aurait leur autoroute. Et là, on se rappelle, entre autres, que M. Harvey Mead ou Mead, dépendamment de votre approche envers lui. Bien, président de l'UQCN, l'Union québécoise pour la conservation de la nature, eh bien, a réclamé au ministre Mulcaire, dans le fond, de réfléchir grandement sur cette prise de position qu'il fait peut-être trop régulièrement face à des projets qui vont à l'encontre de son cher développement durable.
Moi, j'ai une petite théorie là-dessus, parce que M. Mulcaire, il est populaire, hein, puis le chef du parti, il est pas très populaire, hein. Fait que peut-être qu'en fait, M. Mulcaire, il aspire à la chaise du chef, puis c'est pour ça qu'il promet des routes, des travaux, puis de la construction.
Aucune chance, Philippe Couillard est là, tout le monde aime.
Mais non, c'est vrai, c'est Jean Lapierre.
Mais voyons, ben,
je te le dis, j'ai vu ça dans les journaux.
C'est vrai qu'il a déjà été animateur de télévision. Quand on a déjà fait ça, on peut faire n'importe quoi, semble-t-il.
Surtout à TQS.
Surtout à TQS, le mouton noir de la TV, puis maintenant Mulcaire, c'est le mouton noir de l'environnement.
Ben, en tout cas, ça va pas bien.
Retour à Délirium environnemental, revue de presse, revue de l'actualité. Pour ceux qui nous suivent sur une base, pas quotidienne, j'espère, mais bien hebdomadaire, vous avez peut-être été surpris de ne pas nous entendre parler du plan vert, donc du plan d'action vers les changements, pour les changements climatiques. Le projet vert, donc c'est enfin doté le Canada et qui a été rendu public mercredi passé. Et comme vous savez, nous sommes en redifféré dans la vie et nous enregistrons les mardis.
Mais à la radio, peut-être pas dans la vie tout le temps.
Pas dans la vraie vie, merci, précision importante. Mais bref, à la radio seulement. Et donc, on ne s'est pas encore prononcé sur cette question-là. Et Nicolas Milot et Patrick Bonin, on sans doute ont des choses à dire sur ce plan qui, disons-le tout de même, a été décrié sur toutes les tribunes à travers plusieurs médias. Et j'étais très heureuse de voir ça.
Ouais.
Prononçons.
Donc, déception claire et évidente.
Je pense que c'est évident, vous l'avez vu pas mal dans tous les journaux. La plupart des gens sont contents de voir un plan arriver, pas mal déçus de ce plan qui donne une grosse une tâche énorme à tout ce qui est les citoyens et la population, pas beaucoup d'objectifs pour les industriels. Le plan a été décrié par la plupart des groupes environnementaux, autant du côté anglophone que du côté francophone, soit le Québec, on ne se le cachera pas, particulièrement au Québec, parce que ce plan-là ne tient aucunement compte de la réalité québécoise, aucunement compte qu'au Québec, on a environ, par tête de pipe, si vous voulez, deux fois moins d'émissions que les autres provinces canadiennes. Donc, on se retrouve dans une situation où un gouvernement sort un plan. On en parle souvent, depuis 1997, on est au courant que Kyoto existe en tant que tel. Donc, sort un plan qui où il n'y a pas eu de consultation avec les principaux intervenants en environnement. Les intervenants en environnement se sont fait donner le plan rapidement pendant des 45 minutes ou des 1 heure pour regarder le plan, pour dire ce qu'ils en pensaient. Donc, c'est aucunement orchestré ça de façon harmonieuse, si vous voulez, consensuelle, à partir du moment où, justement, on a une partie de la société civile qui se retrouve avec un fardeau énorme.
Soit les citoyens.
les citoyens. Dans ce plan-là, deux grands points, on parle de deux nouveaux fonds. Le fonds du climat qui servira principalement à acheter des permis d'émissions de gaz à effet de serre parce que le Canada ne sera pas capable de respecter ses diminutions d'objectifs d'émissions de gaz à effet de serre.
À hauteur de 30%, donc il va acheter son droit de polluer. Parce qu'on s'entend-tu que c'est ça, c'est l'acheter le droit de polluer?
Le pire là-dedans, c'est que les entreprises qui ne seront pas capables justement de respecter les quotas, et je vous passe tous les détails, là, mais croyez-moi, allez voir n'importe quel plus ou moins spécialiste, là, il y a de quoi s'arracher les cheveux de la tête. Là. On parle, les entreprises ne vont même pas payer le prix réel de ces tonnes-là de gaz à effet de serre parce qu'on fait des échanges de tonnes. Donc, si moi j'émets trop de tonnes, faut que j'en rachète à quelqu'un parce que j'ai un quota. Donc, il va y avoir un prix plafond fixé par le gouvernement. Et la balance entre la différence entre ce que les entreprises vont payer et le prix du marché par exemple est à 24$, les entreprises pourront pas payer plus que 15$, et bien c'est nous tous citoyens qui allons payer ça. Mais peut-être ce qui est important de parler un petit peu plus là-dedans, c'est je crois la situation du Québec. Le Québec qui se retrouve face à un plan, je veux dire, on nous le garoche directement dans la gorge, si vous voulez.
Qui ne répond pas à ses besoins.
Qui ne répond pas. Le Québec pourrait se faire critiquer parce que lui-même n'a pas de plan, on l'a rappelé tantôt. Donc, il est vraiment mal placé pour justement tenter de négocier parce que, oui, on n'a pas beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre au niveau de la production d'électricité. Les industries ont fait un certain effort. Mais par contre, au niveau des transports, on fait absolument rien. On s'en va nulle part. On parle d'environ 3 personnes qui seraient au niveau, 3 fonctionnaires qui travailleraient au Bureau des changements climatiques au Québec.
Sur la question des transports?
Sur la question des changements climatiques au Québec, au niveau du Bureau des changements climatiques.
Ils sont bien, bien bons.
Ben, j'espère.
Ils sont bien, bien bons. On a aboli cette semaine un programme éco-geste qui aidait justement les entreprises à calculer leurs émissions de gaz à effet de serre.
Ça a été
tout simplement aboli cette semaine. On a appris ça en douce. Ça n'a pas fait la manchette, évidemment, vous n'en doutez pas. Et, ben, écoutez...
Je m'excuse.
J'ai presque pas...
Non, c'est parce que je voyais le temps filer puis je voulais aussi entendre le commentaire de Nicolas Milo. Je m'excuse, est-ce que tu avais terminé?
Mais le commentaire de Nicolas Milo est tout aussi révolté que celui de Patrick Bonin. Regardez, les Canadiens sont responsables environ du quart des émissions de gaz à effet de serre au pays. Les Canadiens, les citoyens, donc dans leur activité de tous les jours. Et le plan leur demande d'acquitter les 3/4 de la note. Donc, c'est absolument pas, je pense, respectueux. La logique, c'est simple, c'est que on n'est pas sévère, donc les citoyens doivent payer. Et dans le cas du Québec, eh bien, il y a premièrement deux façons d'aborder la question. C'est celui de notre passé. Oui, c'est beau, c'est vrai que le Québec, par le passé, a laissé peut-être une empreinte moins importante au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et je suis peut-être le premier à être content, mais je ne suis pas le premier, on est tous contents, mais c'est une façon de parler. Mais bref, on est content de vivre dans cette place-là. Maintenant, ce n'est pas simplement en se comparant aux autres qu'on doit se consoler, on doit continuer à aller plus loin. Et on rappelle que Montréal doit être l'hôte à la fin de l'année de COP11, la fameuse
conférence
des parties signataires du protocole, qui a lieu à chaque année, ou plus ou moins à chaque année, suite aux accords de protocole de Kyoto. Et bien là, le Québec qui va accueillir les dignitaires mondiaux, je m'excuse, la table, je frappe un peu trop fort. Mais c'est complètement... Et ce qui est encore plus aberrant, c'est de se rendre compte à quel point nos gouvernements n'ont absolument pas mis leurs culottes sous le simple prétexte de maintenir la concurrence de nos industries. Un petit exemple, et là, je vais le tirer d'une industrie pétrolière, mais pour une fois qu'il y a des choses qui se font, c'est British Petroleum, je ne sais pas si c'est les mêmes, c'est ça, se sont fixés volontairement, c'est sûr qu'il y a des trucs économiques en arrière de ça, mais qui se sont sans doute dit, écoute, Kyoto va nous rentrer dedans. Aussi bien essayer de faire quelque chose tout de suite pendant que la valeur de ce que ça va coûter est moins importante que dans le futur. Et avaient des objectifs de réduire de 10% leurs émissions pour 2010 et ils ont déjà atteint ça. Et en plus, ils ont économisé 650 millions de dollars en le faisant. Puis ici, on nous envoie comme excuse qu'il faut maintenir la concurrence, pour maintenir le statut des
des
entreprises, et on est en train de faire un plan qui les exclut totalement. C'est complètement ridicule. On n'a jamais cessé dans les 15 dernières années de réduire, donc depuis même avant Kyoto, où est-ce qu'on parlait déjà qu'il devrait avoir des objectifs de fixer. Eh bien, on a réduit cette année, on est encore réduit de 55 à 36 millions de tonnes, le fardeau de ces entreprises-là. C'est bon, je sais pas.
Qui en fait au Canada, dans l'ensemble de ce grand pays, sont responsables d'environ quoi 50% des émissions de gaz à effet de serre, et nous on leur demande dans le plan vert donc un effort à hauteur de seulement 13% de ce que ça représente de la tarte des gaz à effet de serre.
Et c'est la même chose pour l'industrie automobile également qui en fait partie. Mais en fait, retenez une chose, ce plan a été construit pour aider, entre autres, l'Alberta énormément, et le Québec, avec sa belle situation, va tout faire, et ça va vraiment être compliqué pour le Québec d'obtenir de l'argent du fédéral, justement parce qu'on n'a pas la même réalité. Et là, ça va travailler fort, mais c'est complètement décourageant parce que le Québec a dormi au gaz, n'a rien fait pendant 3 ans, et là, on se retrouve les culottes à terre avec un projet vert.
Et on se réveille. Mais ceux qui voudraient lire plus amplement à ce sujet-là, plusieurs articles ont été écrits à travers les différents médias de la planète et particulièrement ici au Québec sur le plan vert. Tout ça, ça sera disponible sur notre site internet à nous qui est au www.radiodelirium.net. Dernière partie de la revue de presse, revue de l'actualité à Delirium cette semaine. Donc, c'est les en bref cette semaine. Messieurs, on se lance.
Ben écoutez, moi, je vais vous parler de barrages. On oublie souvent qu'il y a des barrages un petit peu partout à travers la planète. Eh bien, imaginez-vous donc.
Barrages. Qu'est-ce que
c'est? Des barrages hydroélectriques.
Ah, oh, je pensais des manifestations étudiantes.
Pensez des barrages de castor.
Ah, je peux-tu faire ma nouvelle, là? Hein? Bon, des barrages soit hydroélectriques ou tout simplement des barrages qui détournent le cours de l'eau. Eh bien, imaginez-vous que la moitié de toutes les larges rivières de cette planète ont des barrages. On en compte 45 000 de plus de 15 mètres sur la planète. C'est l'équivalent d'environ 15% de toute l'eau douce qui coule, qui est retenue. Et je vous en parle parce que c'est une étude qui vient de sortir cette semaine sur l'ampleur des désastres et de ce type d'exploitation qui est parmi les plus dramatiques selon l'étude. Et tout simplement parce que c'est des impacts délibérés sur l'environnement. Les pays les plus peuplés, évidemment, sont les plus affectés. Voilà. Pensez-y. En fait, voyez bien le gouvernement arriver avec des barrages dans peu de temps.
Eh bien, les dangers sont partout. L'Agence canadienne d'inspection des aliments, cette semaine, qui tente de récupérer 21 000 fusils-jouets fabriqués en Chine qui ont été vendus dans des magasins de Dollarama. Vous voyez, c'est que dans la crosse de ces fusils-là, on a mis un petit sachet de terre pour lester l'engin.
Oh,
eh bien, dans cette terre...
Ça.
Ah, c'était tellement beau. Mais dans cette terre, se trouve qu'on ne l'a pas décontaminé, donc... Il y a des insectes, des vers microscopiques, des champignons, des bactéries qui peuvent être là et contaminer notre propre environnement. Mais à la base, le danger, c'est arrêter d'acheter des guns à vos enfants.
Ben, franchement...
Quand même, il n'y a pas de deuxième amendement au Canada. Hein, on n'est pas obligé d'inclure ça dans l'éducation de son enfant.
Drôle d'idée, en effet. Écoutez, la ville de Sherbrooke a fait une reine d'elle. Eh bien, non, pas une folle. Ben, une reine, une folle, c'est un synonyme, pour certains, bien sûr. Eh bien, transport en commun gratuit pour les élèves à Sherbrooke. Eh bien, c'est un succès fou. Imaginez-vous donc que la société de transport de Sherbrooke fait des profits, l'augmentation de 200 000 personnes dans la même année, et de quoi faire parler M. Tremblay, maire de Montréal, Gérald, qui avait fait comme promesse lors de la dernière campagne électorale de ramener le tarif étudiant pour les plus de 25 ans à moitié prix. Peut-être qu'il faudrait lui rappeler que ça fait
encore.
C'est le jour de la Terre, Monsieur Tremblay, cette semaine, c'est le temps de passer à l'action.
Go,
enfin, hey, moi, je vais vous donner une autre très, très bonne raison qui va sûrement convaincre plusieurs personnes que la voiture automobile, donc l'automobile, c'est nocif. On a appris cette semaine que la pollution automobile favoriserait la prise de poids. C'est Weight Watcher qui va être content et qui va s'acheter des actions dans le pétrole, peut-être. Donc oui, une étude française menée par Philippe Igradi de l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, ça c'est en France, a montré que des molécules polluantes comme le benzopyrène ou la dioxine émise par les moteurs à combustion et les centres d'incinération ont pour effet d'une part de bloquer la sortie des lipides des cellules adipeuses et d'autre part de favoriser la multiplication de ces cellules qui stockent les graisses. ça fait grossir. En fait, comment ils ont fait pour savoir ça? En 15 jours, des souris qui avaient été placées dans des conditions de pollution identiques à celles que l'on rencontre à 100 mètres d'une autoroute ont augmenté leur masse corporelle de 4%, ce qui est l'équivalent pour un homme, il voulait dire probablement pour un humain, pesant 70 kg, une prise de poids de 2,8 kg. 4% de la masse corporelle à 100 mètres de l'autoroute pendant 15 jours.
Wow.
On va le dire.
Eh bien, je vous ramène sur les plages de Phuket, Thaïlande, de tsunami, hein, on n'a pas entendu assez parler. Eh bien, 100 jours après le fameux tsunami de Noël 2004, eh bien, les écologistes là-bas, eh bien, commencent à monter aux barricades parce qu'on est en train de faire un développement touristique complètement. Des vrais poules pas de terre par là-bas. Il y a des projets de 100 millions de développement touristique, d'hôtels de luxe, de facilités le long des plages, sans aucune vision d'ensemble. On sait que là-bas, entre autres...
Pour l'économie, franchement, l'économie de l'eau, l'emploi, puis tout ça.
Ouais, l'économie, mais l'économie a fait des morts quand un raz-de-marée passe là, puis qu'on a tout fait n'importe comment. Bref, ça, et en plus de toutes les questions de déforestation ou de reforestation qui seraient très intéressantes, reconsolider les sols, car ça a mangé une petite claque à Noël. Hein. Donc, une vision d'ensemble, un secteur touristique plus intelligent et premièrement plus durable.
Parlant de développement insensé, savez-vous que la compagnie Alcan veut déplacer des milliers de personnes en Inde dans leur projet Alcan in India, donc la campagne de solidarité Alcan in India va présenter cette semaine le 26 avril au Centre des loisirs de Parc Extension un film sur la question. Pour ceux qui auraient le goût de voir ces documentaires-là, c'est bien intéressant, ça va être disponible sur notre site internet. Je trouvais que ça valait la peine d'en parler dans justement cette vision de développement parce que c'est Alcan, une compagnie canadienne minière qui s'en va faire de l'exploitation un peu terrible là-bas.
Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez le centre de rénovation Restore. Eh bien, Restore va arriver au Québec. Je ne sais pas trop c'est quoi, mais ça semble super intéressant. Matériaux de construction, usagés de qualité, fin de série, plein d'affaires. Il y en a 39 au Canada. Ça doit être à La Salle, à Montréal, sous peu. Vous allez avoir un lien Internet sur notre site pour tout comprendre qu'est-ce que le centre de rénovation Restore.
Mais surtout en comprendre en quoi c'est vert, cette affaire. Hey, ça va être la fin de la revue de presse, revue de l'actualité. Au retour, on se fait le plaisir de discuter entre nous de ces états d'âme que nous cause parfois la chose environnementale.
Mais toi, mon petit cycliste, passe-toi, la rue c'est pour les chars. Bon, un autre autobus qui va passer devant moi. C'est ça, encore, encore.
Préoccupé par les changements climatiques? Fais ta part pour le défi d'une tonne. Laisse tomber l'auto, prends ton vélo, fais du covoiturage. Ça coûte moins cher, ça émet moins de gaz à effet de serre et te permet d'éviter les embouteillages. Pour en savoir plus, visite le www.faitapart.net parce que les changements climatiques, ça nous concerne tous.
Maurice Lamarck, c'est une nénette. Richard Louis, c'était un anard. Alice était séparatiste. Chantal Bevoit, c'est libéral. Dans les années 60, on se faisait loin des moins de mal. Maurice est devenu trottiniste. Richard Lisette du Guy Debord. Alice est indépendantiste. Chantal Arbot est libérale. Des années 66, on parle moins des mots de mal. Wow! Encore Richard a un condo dans le nord. Alice, ça travaille pour Maurice. Chantal, ben, on vient de les lire au fédéral. Plus c'est pareil, plus ça change. Y'a rien que des condos.